Говорит Москва.
Besoin d'être en mouvement, on a besoin de cette dynamique qu'on a perdue dans ce pays-là. Et je suis bien d'accord avec vous. Je pense qu'il faut un rassemblement. Je pense que c'est les citoyens regroupés, même si parfois on n'est pas d'accord avec eux, qui doivent décider de cet avenir-là. Et on voit très bien que ça ne fonctionne plus.
Bonjour à tous, chers amis. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors, avant de vous parler du podcast, de vous présenter le podcast de ce mois, je voulais revenir un instant sur le podcast du mois dernier qui n'a pas été sans susciter certaines réactions et des réactions parfois même assez vives et assez négatives. Alors, je voudrais revenir sur certaines d'entre elles puisqu'elles n'ont pas fait l'objet de commentaires publiés. Et j'aimerais y répondre. Les gens, s'ils écoutent, ils se reconnaîtront. S'ils n'écoutent pas, ça n'est pas très grave. Mais en tout cas, je voulais quand même y revenir puisque ici, je ne réponds pas à des gens, mais je réponds d'une manière générale à ceux qui auraient pu avoir les mêmes réactions sans pour autant les exprimer. Alors, je critique la Russie et pourtant j'aime énormément ce pays puisque j'ai choisi d'y vivre. Hein. On ne m'a pas imposé quoi que ce soit, j'ai choisi d'y vivre. Non seulement j'ai choisi d'y vivre, mais en outre, j'ai choisi d'en parler. J'ai choisi d'en parler j'en ai beaucoup parlé en bien. Simplement, tout ce que j'en ai dit de bien serait partial si je ne reconnaissais pas les choses qui dysfonctionnaient dans ce pays. En conséquence, je me dois, effectivement, et je continuerai de le faire, que ça plaise ou non, ceux à qui ça ne plaît pas sont tout à fait libres de ne pas suivre ce podcast, il n'y a aucune obligation, mais moi, en tout cas, je continuerai de dire ce que je vois ou ce que je perçois. Ça reste ma perception, elle est parfaitement discutable, mais je continuerai sur le principe de la dire. Alors certains m'ont de l'exprimer, et certains m'ont reproché de critiquer mon pays d'accueil. Alors, la Russie est effectivement le pays qui m'accueille actuellement. Je lui apporte beaucoup, je lui apporte mon savoir, je lui apporte les impôts que j'y paye, ce qui est parfaitement normal. J'en respecte à la lettre les lois. J'essaie de me comporter comme j'aimerais que les étrangers se comportent chez moi. Après, les étrangers qui se comportent chez moi sont tout à fait loisibles de dire ce qui ne leur convient pas ou ce qui, à leur avis, dysfonctionne. C'est toujours bon à prendre et cela permet de s'améliorer. La Russie est en train d'évoluer, est en train de se durcir. On en parlera d'ailleurs dans le podcast que j'ai enregistré avec Laurent Braillard et que je vais vous présenter dans un instant. Mais simplement, voilà, je pense qu'on doit bien sûr respecter une certaine politesse, une certaine courtoisie vis-à-vis des autres. Je ne fais pas de politique ici, je ne prends pas part au débat politique, simplement je mets en lumière dans mes publications des choses qui dysfonctionnent et je continuerai de le faire de façon, encore une fois, la plus courtoise possible, mais je continuerai et je ne m'arrêterai pas parce que sinon je serai taxé d'impartialité. Aujourd'hui, j'en arrive à être de partialité, pardon. Aujourd'hui, j'arrive à être taxé de partialité par les pro-russes et par les anti-russes. C'est vachement malin. C'est peut-être le lot de ceux précisément qui essaient d'être impartiaux. En tout cas, c'est ce à quoi je m'efforce avec mes modestes moyens. Et à ce titre, je vous remercie de rester fidèle à ce blog et de continuer de le partager. Alors maintenant, nous allons parler de l'invité de ce mois-ci, qui est Laurent Braillard. Laurent Braillard, c'est un journaliste de terrain, un type extrêmement intéressant. Vous verrez, nous parlons d'énormément de choses, on aborde beaucoup de choses. On aborde le conflit russo-ukrainien. Nous abordons également des sujets plus légers. Nous parlons un peu de gastronomie, de vin, de choses comme ça, de choses qui pourront éventuellement faire l'objet d'émissions à venir, puisque rendez-vous est pris pour d'autres podcasts avec Laurent Braillard, qui m'a fait l'amitié de venir jusque chez moi pour enregistrer ce podcast, ce dont je le remercie. C'est toujours plus agréable que de faire des podcasts à distance. Alors, merci vraiment à lui. Nous avons, au cours d'une petite heure, comme je l'ai dit, abordé un certain nombre de sujets, tous plus intéressants les uns que les autres. J'ai parlé évidemment du conflit russo-ukrainien, mais nous avons également parlé de la France, de ses institutions, puisque Laurent est très attaché à ce qu'il appelle le laboratoire de la République. Son livre, évidemment, je vous le conseille. Mais je vous conseille aussi, et même je vous demande, si ce podcast vous a plu ou si vous subodorez qu'il vous plaira, eh bien, de le faire connaître autour de vous sur vos réseaux. Et moi, je vous retrouve tout de suite. Laurent Braillard, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le balado de la réplique. C'est la première fois que vous venez. Je n'oublierai pas de vous poser la question traditionnelle à la fin de l'interview. Est-ce que vous reviendrez? J'espère que oui. En tout cas, c'est un immense plaisir de vous avoir. Merci beaucoup.
Plaisir partagé.
L'entretien va se dérouler en deux temps. On va parler d'abord, et c'est normal, du livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Comprendre le conflit ukrainien ». Et puis, j'aimerais aussi vous entendre, parce qu'évidemment, on vous entend surtout sur la Russie et sur l'Ukraine, puisque, au cas où les auditeurs ne le sauraient pas, nous sommes ici à Moscou, puisque, comme moi, vous vivez à Moscou. Et donc, j'aimerais aussi vous entendre un petit peu sur votre vision des institutions françaises qui, d'après vous, doivent changer. Vous allez nous dire, bien sûr, tout ça. Mais avant toute chose, j'aimerais bien que vous demandiez de vous présenter un tout petit peu.
Eh bien, je m'appelle Laurent Braillard. J'ai émigré en Russie en 2010. Je suis bourguignon. J'ai une formation d'historien. J'ai un Master 2. Je suis spécialiste des armées de la Révolution, un truc très précis. Et accessoirement, c'est assez marrant, j'en parlerai assez peu, j'ai fait du vin pendant 17 ans. Donc j'ai une formation de vigneron qui complète ce parcours un peu étrange. Et je travaille comme journaliste depuis 2012, voilà, après un long parcours des médias étatiques russes jusqu'à freelancer et le Donbass par la suite.
Et vous savez travailler autre chose que les pinots noirs et les chardonnays?
Oui, parce que par un hasard un petit peu aussi étrange, j'ai été marié à une berrichonne, une fille de vigneron du Sancerrois. Donc j'ai travaillé des sauvignons. Également.
Des sauvignons. Et il n'y a pas des... des chenins aussi, là-bas?
Pas à Sancerre.
Pas à Sancerre, d'accord. Mmh. Okay. J'y connais pas beaucoup, mais... Voilà. Alors, je vous réinviterai pour parler de vin, puis surtout pour en boire.
Avec plaisir.
Vous trouvez des bons vins ici, en Russie?
Oui, ça ferait même le thème d'une belle émission, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées en Russie, le niveau a grimpé. J'ai une petite affaire, vin, fromage, j'ai fait une tournée, je fais toujours des tournées de foire au vin. J'en ai fait une en 2023 à travers toute la Russie, donc j'ai une assez bonne vision. C'est très intéressant. En Russie, il se passe des choses de ce côté-là.
Alors, habituellement, ici, mes invités reviennent à une fréquence annuelle. Je crois que je vais vous réinviter à moi.
Voilà. Ça sera avec plaisir.
Si toutefois, on arrive au bout, c'est d'y arriver. Alors... Donc, vous avez publié, puisqu'on est quand même là pour parler de votre livre, même si vous êtes multicarte, effectivement, je voudrais savoir un petit peu, donc vous avez publié « Comprendre le conflit ukrainien » aux éditions Contre-Culture.
Oui.
Et j'aimerais savoir, comme première question, est-ce que le conflit ukrainien se comprend différemment entre le début et la fin de l'écriture de votre livre? Et combien de temps il a fallu pour écrire ce livre? Parce que c'est un livre qui se lit assez vite, hein, qui est assez court, qui fait un peu plus d'une centaine de pages.
Oui, 114.
Et voilà, et même moi j'ai réussi à le lire assez vite. Donc voilà, j'aimerais un peu savoir quel est votre. Est-ce que la, votre, disons, votre analyse du conflit ukrainien a évolué? Est-ce que j'imagine que les choses ont aussi évolué?
Alors en fait, le livre, c'est comprend le conflit russo-ukrainien, parce qu'évidemment, il y a deux belligérants. C'est lié aussi beaucoup à mon histoire, puisque je suis parti en 2015 pour une année complète sur le front, donc au début de la guerre, même si j'ai pas vu le tout début, hein. À l'époque, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'Ukraine, le royaume de la désinformation, et qui effectivement me paraît très désuet maintenant. Et celui-là, je l'ai écrit donc il n'y a pas très longtemps, dans l'hiver 2025-2026. J'ai mis 2 mois pour l'écrire sans trop me forcer, parce qu'en fait, c'est un livre de vulgarisation. J'ai voulu expliquer aux francophones très largement pourquoi ce conflit et surtout les racines. Donc en fait, c'est un livre d'histoire. C'est pas du tout un livre quelque part sur les faits, sur la guerre de maintenant, etc. J'en parle très très peu. C'est vraiment les racines profondes et justement qui vont jusqu'à la création de la civilisation russe et de la Rousse de Kiev. Donc ça part de là pendant assez longtemps sur un premier chapitre. Un deuxième chapitre qui est un petit peu l'époque soviétique, la guerre civile russe avant, et puis ensuite jusqu'à l'Ukraine indépendante, et un troisième chapitre qui part de là jusqu'au Maïdan, puis la guerre.
D'accord. Effectivement, hein, il y a une partie très fournie sur la Russie de Kiev, puisqu'on rappelle que le berceau de la Russie, c'est Kiev. Et donc, il y a effectivement une partie très fournie, très détaillée. Alors, évidemment, moi, je ne suis pas spécialiste du tout de cette époque. Par conséquent, je ne suis pas forcément en mesure comment dire, de me faire une véritable opinion sur. J'imagine que vous présentez des faits et que les faits que vous présentez sont parfaitement exacts. Après, évidemment, je suis pas historien, donc les analyses et encore moins historien de la Russie. Donc les analyses sont ce qu'elles sont. Mais en tout cas, il y a cette partie qui est très fournie et qui permet en tout cas de comprendre une chose, c'est que finalement, les Russes et les Ukrainiens sont en grande partie le même peuple.
Avec les Biélorusses, évidemment.
Avec les Biélorusses. D'ailleurs, à l'époque où il s'est agi de discuter sérieusement d'une alternative à l'Union soviétique, des intellectuels comme Solzhenitsyn avaient proposé une entité avec Russie, Biélorussie, Ukraine plus Kazakhstan.
Oui, Kazakhstan, parce qu'évidemment, il y avait une forte diaspora russe qui s'était installée, ce qui paraît assez cohérent. En fait, c'est assez marrant parce que je ne connaissais pas ce fait. Donc, déjà, merci pour cette information, comme quoi on en apprend toujours. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon ami Andrei Lysenko, donc qui est russe, a relu le livre, justement, pour me conseiller sur cette partie, parce que, bon, voilà, je suis français quand même. Même si j'ai beaucoup de connaissances, j'ai quand même fait appel à un spécialiste pour m'aider à débroussailler certains points obscurs, ou vérifier que j'avais pas fait d'erreur.
C'est sage. Vous insistez beaucoup dans le livre. Donc vous avez une trame assez chronologique qui insiste, et ça c'est très intéressant, parce que ça je crois que c'est une chose sur laquelle il faut vraiment communiquer. Le conflit n'a pas commencé le 24 février 2022.
Non, pas du tout.
On est d'accord. Et je veux dire, rien que pour ça vaut la peine effectivement de lire le livre, parce qu'on comprend un certain nombre de choses, un certain nombre de faits. Ce que vous écrivez est factuel. Alors, est-ce que dedans il y a des choses que vous n'écrivez pas? Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, ce que vous écrivez est factuel et n'est pas contestable, en tout cas pas contesté. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui.
J'ai très honnêtement essayé de faire le travail d'historien. Le travail d'historien, même si ce n'est pas une science exacte, c'est justement s'appuyer sur des faits, sur des faits concrets. et essayer d'être le plus honnête possible, hein, justement sur ces bases-là.
Sur ces bases-là, c'est-à-dire que oui, vous, je veux dire, voilà, ce qui s'est passé à la maison des syndicats à Odessa, c'est, je veux dire, c'est un fait. Ça a existé. Ça, voilà, objectivement, je veux dire, là-dessus, on ne peut pas vous, voilà, il y a eu des faits. Alors, l'objectif de ce livre, outre, je veux dire, il s'adresse à qui? Il s'adresse à des gens.
C'est un livre vulgarisateur qui s'adresserait à des gens qui connaissent assez peu l'Ukraine, la Russie, qui n'en parlent pas les langues, qui ne sont pas venus en Russie, et surtout qui n'ont pas suivi, on va dire, le début, enfin, du moins le début du conflit. Je parle ici de la guerre, hein, pas du conflit dans ses racines profondes.
Bien sûr.
Et le monde francophone a quand même une déficience assez importante, une méconnaissance assez importante de la Russie, de son histoire particulièrement. Et c'est assez clair qu'ici, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire, leur donner quelques armes, ensuite aux gens de se faire leur opinion, de chercher, de lire encore, de poursuivre.
Et en quoi ça le regarde le monde francophone, la Russie, finalement?
C'est une vieille histoire. Elle fait partie, le général de Gaulle disait, donc l'Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. La Russie fait partie de cet ensemble. C'est un peuple qui a été lié et qui est toujours lié à la France, même si la France la rejette. Et l'Ukraine
L'État
également. Hein.
français la rejette, pas la
Oui,
France.
l'État français. Ouais, vous avez raison. Et même l'Ukraine, hein, tout le monde sait très bien que les Français ont joué un assez grand rôle. Les premiers gouverneurs d'Odessa sont des Français, le duc de Richelieu, puis le comte de Langeron, etc. Enfin, c'est une histoire qui est, je t'aime moi non plus, avec la guerre de Crimée, les campagnes napoléoniennes, l'aristocratie russe qui parlait français couramment, Pouchkine, etc. Turgenev, qui est le plus français de tous les écrivains russes, qui a vécu à Paris, etc. Enfin, c'est une très vieille histoire, et c'est dommage qu'on la jette comme ça aux orties par rapport à ce conflit.
Bien sûr. Alors dans ce livre, il y a quelque chose qui, moi, m'a quand même beaucoup troublé. C'est que vous insistez beaucoup sur les rapports entre le pouvoir ukrainien, enfin le pouvoir enfin ceux qui ont pris le pouvoir en 2014 en Ukraine. Et les néo-nazis et tout ça. Moi, j'aimerais bien comprendre parce que, bon.
En fait, je les appelle pas tellement dans le livre. D'ailleurs, j'utilise assez peu, je pense, le terme. Je parle plutôt de bandérisme. C'est une sorte de mutation de cette idéologie fasciste, néo-nazi, etc. Et c'est une vieille histoire. Je pense que je l'explique assez bien. D'ailleurs, c'est une histoire d'occasion manquée, quelque part, qui part de la guerre civile, de ce désir de cette naissance du nationalisme ukrainien dans le giron de l'Empire austro-hongrois à l'époque. Et qui, hélas, va se retrouver à chaque fois du mauvais côté, en fait, des cartes, et qui va choisir les mauvais alliés. On peut dire que c'est à peu près ça, l'histoire.
Oui, mais alors bon, le problème, c'est que vous savez que la diaspora ukrainienne, c'est pas vous que je vais apprendre ça, la diaspora ukrainienne est quand même très représentée dans la communauté juive, hein, que ce soit au Canada, que ce soit y compris en Ukraine, je veux dire l'entourage de Zelensky, Zelensky est lui-même juif, il y aurait comment dire ça? Il y aurait une alliance de circonstances entre juifs et néo-nazis. J'aimerais comprendre parce que j'avoue que je comprends pas. Et je veux dire, c'est pas un effet de manche journalistique. Vraiment, je cherche à comprendre.
Non, je ne pense pas qu'il y ait du tout une alliance. C'est juste un concours de circonstances qui fait. Et d'ailleurs, on va dire l'Ukraine juive. J'aime pas dire ce mot. Ma grand-mère s'appelait Laure Salomon, donc moi aussi j'ai ce sang. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette Ukraine juive a été exterminée. On le sait. Il faut lire Simon Wiesenthal, qui était né en Galicie, à Lvov. Justement, dans cet empire austro-hongrois, cette Ukraine-là a été exterminée. Est-ce qu'il en est resté? Bien sûr, c'était pas grand-chose. Ensuite, je pense que Zelensky, quelque part, c'est pas tellement un juif orthodoxe pratiquant. On le connaît pas pour sa pratique. Peut-être qu'il a ce sang comme c'est comme moi. Mais moi, j'ai jamais entendu dire qu'il avait une pratique religieuse ténue, etc. et que ce soit très important dans son cursus. Dans le livre, j'en parle assez peu de ça, finalement.
Vous en parlez assez peu dans le livre, mais vous en parlez beaucoup actuellement sur vos réseaux sociaux. Bon, on précise qu'on est on enregistre le 13 mai, donc il y a eu le 9 mai, il y a eu tout ça, et sur vos réseaux, c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup. Et puis, d'une manière générale, c'est quelque chose que les gens veulent comprendre parce que en Occident, évidemment, cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect donc néo-nazi des bandéristes, avec des trucs, des croix gammées tatouées, enfin des choses comme ça, c'est quelque chose qui est complètement occulté.
Il y a un côté absurde. J'ai écrit l'histoire de la compagnie Oudah. La compagnie Oudah, c'est une compagnie juive dans le private sector, parti néo-nazi, s'il en est. Il y a ici quelque chose d'absurde, qu'il y a eu ce globalisme, mondialisme, comme on veut. Moi, j'appelle ça la bouillie, qui a un peu mélangé les cartes. Et quelque part, les bases, comment dire, historiques, les standards du temps passé ont disparu par rapport à tous ces faits et toute cette évolution, cette espèce de mutation par le globalisme. L'Ukraine, en plus, c'est un pays quand même très compliqué, puisque, comme vous savez, il y a une façade très attachée à l'Occident, c'est celle de la Galicie, la Volhynie, qui a été liée à l'Empire austro-hongrois et à la Pologne, etc., et où on parle réellement l'ukrainien, et puis la partie centrale, et encore la partie à l'est, extrêmement liée à la Russie. C'est vraiment un pays très compliqué, plus les Tatars au sud, etc. Enfin, c'est vraiment plus même, on pourrait parler de la zone de Ismaël, puisque là on est en Bessarabie, cette zone est devenue ukrainienne par les traités, mais en fin de compte elle était ottomane, elle était russe, elle a été également, finalement, elle pourrait faire partie de la Roumanie. Enfin, c'est un pays très compliqué, qui est sur ce que j'appelle la fracture du Dniepr, une zone géographique où des peuples, des civilisations n'ont cessé de se combattre. Je fais la comparaison avec la fracture du Rhin pour nous.
Est-ce que les frontières sont amenées à beaucoup évoluer dans la région?
Oui, d'ailleurs, elles ont évolué énormément. C'est un peu le drame finalement de l'Ukraine, qui est en fait un chemin, enfin un passage. Les envahisseurs y sont passés pour attaquer la Russie dans un sens ou dans l'autre, la Russie dans l'autre sens. C'est un pays de rencontres et à la fois de conflits. Hélas, ils sont à un carrefour de violences très riches en histoire. C'est aussi l'histoire des Cosaques, comme vous savez. C'est très compliqué.
Mais alors, comment vous expliquez, par exemple, cette occultation de la part des Occidentaux qui pourtant font une chasse, enfin je veux dire aujourd'hui, si on a le en France, en Belgique, en Suisse, enfin dans l'Europe francophone, si on a le malheur de un tout petit peu déraper ou de faire une blagounette, c'est tout de suite la correctionnelle ou l'équivalent. Là, tout d'un coup, il y a une espèce de pudibonderie. Comment vous arrivez à expliquer ça?
C'est des régions Machiavel, ils ont bien lu et bien appris Machiavel. Finalement, les bandéristes d'ailleurs sont pas une majorité en Ukraine. Hein. En 2002, ils faisaient 70 000 voix. En 2012, ils étaient montés déjà à 700 000. En 2014, ils font 1 500 000. En 2019, ils font 2 500 000.
C'est une sacrée progression quand même, hein?
Oui, très importante. Mais il reste une minorité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens ont été utilisés comme poings armés dans ces révolutions colorées, qui ont été, donc, on le sait, hein, c'est pas un secret, même les États-Unis s'en sont vantés, ces révolutions colorées sont occidentales, elles ont été menées un peu partout, et aussi, bien sûr, comme vous le savez, en Afrique, au Moyen-Orient, etc., au Caucase.
Oui, même en France, moi je pense que la révolution 68 était une révolution. Enfin, pardon, les manifestations de mai 68 étaient une révolution colorée en réalité. Mais c'est un autre sujet, je vous le concède.
Non, mais c'est assez lié. D'ailleurs, ça c'est connu maintenant, tout ça a été débunké, en tout cas déclassifié, notamment ce qu'était Force ouvrière, la CIA était derrière, etc. On pourrait dire effectivement que mai 68 était une des premières révolutions colorées. Mais donc, ils ont été utilisés comme poings armés, ainsi que d'autres. Hein. C'est une mouvance parmi d'autres. Il ne faut pas ignorer cette. C'est un pays, quand même, il faut le dire, c'est très important, qui n'a jamais existé comme État autrefois, avant donc 1990, avant l'écroulement de l'URSS. Et donc c'est un pays qui était en complète construction, en mutation, et ces pays-là, évidemment, ont beaucoup de problèmes. Il y a une construction de l'identité et qui s'est faite à marche forcée, et les bandéristes ont fait partie de ceux qui ont proposé, on va dire, comment dire, la création de ce qu'ils appellent la nation, par la guerre, le sang, etc. Et puis tout un folklore, ça c'est ce que disent les Occidentaux, mais qui est une vraie idéologie bien construite et qui est allée bien plus loin que le nazisme. C'est un enfant taré du nazisme, mais dangereux et violent.
D'accord. Mais en tout cas, je recommande, si vous voulez un livre qui se lit vite et qui permet de comprendre un certain nombre d'éléments, ou en tout cas qui permet d'alimenter la réflexion sur un certain nombre d'éléments, c'est un livre de vulgarisation, c'est un livre qui s'adresse à des gens qui connaissent mal le sujet et qui aimeraient en savoir plus pour ensuite pouvoir faire leurs propres analyses de ce qu'on leur dit, surtout en Occident. Eh bien, je recommande, ça s'appelle Comprendre le conflit russo-ukrainien, et pardon d'avoir écorché le titre du livre, ça s'appelle donc Comprendre le conflit russo-ukrainien, c'est publié aux éditions Contre-Culture, et nous mettrons bien sûr un lien sur l'article qui accompagnera le podcast, et nous mettrons également les liens vers les différents sites et réseaux sociaux de Laurent Braillard. Alors, figurez-vous que je ne vous ai pas fait venir que pour ça, parce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc, beaucoup plus que ce que je pensais d'ailleurs. Et vous avez publié en fait, au départ, c'est pour ça que je vous ai fait venir, parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance d'interviewer il y a quelque temps Christelle Néant,
Qui est ma collègue de toujours.
qui est votre collègue de toujours, qui est voilà, moi qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, je le dis, voilà, c'est quelqu'un de. Alors, c'est pareil, hein, aimer beaucoup quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire qu'on va absolument tout partager et qu'on va être en adéquation absolument totale sur absolument tous les sujets, loin de là, et j'ai envie de dire presque au contraire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'on respecte parce que c'est quelqu'un qui recherche des vérités. D'ailleurs, le podcast, et je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas fait, et vous ne l'avez pas fait, ça s'appelle Christelle Néant, chercheuse de vérité. Donc j'ai. Voilà. Alors, elle a publié sur ses réseaux un texte. Bon, au départ, je n'avais pas compris que c'était de vous, donc je lui ai dit, Christelle, il faudrait venir en parler. Non, vous avez dit, c'est Laurent Braillard
Le
qui a parlé.
laboratoire de la République.
Le laboratoire de la République, exactement. Et c'est une petite rubrique pour alimenter le débat, d'après ce que j'ai compris,
Oui.
avec un certain nombre de propositions. Alors, on ne va pas toutes, évidemment, les examiner ce soir parce que le temps nous est mesuré, parce que les podcasts en général ne font pas plus d'une heure. Mais j'aimerais quand même vous entendre. Et puis, évidemment, moi, je suis un débatteur, je suis passionné de politique, je suis passionné de politique intérieure française, bien que j'ai deux appartenances, hein, je suis franco-suisse, mais je suis passionné de politique française depuis l'âge de 7 ans et demi, donc ça fait quand même un bail. Et par conséquent, depuis la mort de Pompidou, en fait. Et par conséquent, évidemment, j'avais très envie, parce que je suis passionné de réformes institutionnelles. Alors, vous faites un certain nombre de propositions qui sont sujets à débat. Et la première, déjà, il va fort, c'est-à-dire qu'il est écrit « La présidence de la République est abolie afin de neutraliser les luttes des partis, les manipulations électoralistes et les ambitions souvent quasi monarchiques de politiciens carriéristes ». C'est pas rien, donc vous voulez carrément, donc vous voulez fermer l'Élysée.
En fait, il faut bien comprendre que j'écris, par exemple, un article. Souvent, je m'attache comment dire, à faire des portraits. Je suis un spécialiste de biographie, en fait. Et par rapport à ces portraits, il y a des faits qui me choquent ou des scandales ou des corruptions. Je fais ensuite ces propositions et les gens viennent débattre, me dire non, je préférais autre chose, non, oui, ça serait bien, etc. Et ajouter. Là, je ne me souviens plus exactement quel article avait déclenché ces propositions. Souvent, il y a 7 ou 8 propositions. Mais en fait, c'est très flou. Il faut quand même comprendre aussi d'où je viens. J'aime beaucoup Étienne Chouard, que j'ai longtemps suivi. Je suis quelqu'un qui n'est pas tellement fait partie de partis politiques, à part l'UPR, donc de François Asselineau. Donc chez moi, il y a quand même une forte appétence justement d'un débat constitutionnel, de reprise de notre destinée, de reprise de notre souveraineté, évidemment sortie de l'Union européenne, etc. Enfin, je ne vais pas reprendre ce que, par exemple, dit Monsieur François Asselineau ainsi que d'autres. Mais l'idée du chef, quelque part, peut-être, regardons vers la Suisse, qui elle n'a pas de président de la République et qui s'en sort peut-être mieux que la France. Alors souvent, on m'a dit, oui, mais la Suisse est un petit pays, c'est pas pareil, etc. Et moi, je crois qu'il faut réfléchir un peu dans toutes les directions.
Alors, d'abord, une première chose sur laquelle j'aimerais tout de suite vous démentir, c'est que la Suisse n'est pas un petit pays. La Suisse est un grand pays.
Ah, moi, j'ai pas dit ça, c'est les gens qui me disent
Ah,
ça.
pardon. Alors, donc,
Moi.
j'aimerais démentir tout de suite les
Oui.
gens qui vous ont dit ça. Ça, c'est un cliché, c'est inacceptable. La Suisse est un grand pays. D'ailleurs, si vous aplatissez les montagnes, la Suisse est plus grand que la France. Hein.
Largement.
Donc,
Non, mais
non,
c'est pas moi qui le dis, et justement, c'est assez choquant. C'est un petit peu dans ce côté nombriliste franco-français de regarder un peu de haut les voisins qui, bah justement, paraissent finalement inférieurs ou qui. Il y a cet esprit nombriliste français qui est aussi assez. Comment dire? Que je combats, que j'aime pas beaucoup. Et il faut effectivement regarder chez nos amis suisses ou même du Luxembourg et de beaucoup d'autres endroits
Alors,
ce
la
qui se
Suisse que
passe.
je connais bien, parce que ben, il se trouve que j'en suis aussi citoyen. La Suisse m'a fait l'honneur de me faire citoyen de ce pays. C'est tout. La Suisse est différente. D'abord, c'est un pays quadrilingue. C'est pas rien. C'est un pays qui a une conception de la nation totalement différente et une conception de la centralisation totalement différente. Et donc, il y a forcément une conception de l'exercice du pouvoir qui est totalement différente. Évidemment, ça nous amènerait loin. Alors, il faut quand même savoir que la Suisse, malgré tout, a un chef d'État. Sauf que le chef d'État change tous les ans.
Oui, mais justement, si on prend l'histoire de la Suisse, tout le monde sait très bien que c'est peut-être une des premières démocraties d'Europe, puisque elle met fin au joug de l'empereur et quelque part, il y a un côté chez les Helvétiques extrêmement démocrate, en tout cas beaucoup plus que chez nous en France. Et c'est un peu l'idée aussi, peut-être cette suppression du chef de l'État, enfin en tout cas de la présidence de la République, parce que pour moi, on est dans un régime présidentiel. Ça n'a rien à voir avec la République quelque part.
Alors, à titre personnel, parce que dans cette partie, j'ai décidé de présenter aussi, d'abord d'où vous apportez la contradiction, parce que j'adore ça, et comment dire ça, de donner un peu mes opinions, puisque c'est un blog d'opinion. Hein, je fais aussi, moi, un travail militant. Alors, je ne suis pas. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure, c'est très intéressant, vous avez dit que vous étiez. Que vous appréciez François Asselineau. Moi, j'ai deux, trois trucs à lui reprocher, on ne rentrera pas dedans, mais j'ai écrit un article il y a quelques années, je vous enverrai le lien si je le retrouve, d'un type absolument extraordinaire qui a. C'était pour les élections de
17.
2017, exactement. Qui a obtenu les 500, enfin qui a été déterminant dans l'obtention pour François Asselineau des 500 signatures et il est parti faire le tour de sa région à pied avec son chien guide parce que ce type-là est aveugle complet.
Alors moi aussi, pour comment dire, ramener de l'eau au moulin, j'ai quand même quelques trucs à leur reprocher, ce qui fait que en 2020, j'ai quitté ce parti. Justement parce que bon, il fallait aller plus loin. Voilà, François Asselineau a apporté, je pense, à son époque et à son moment quelque chose, enfin, des choses intéressantes. Il faut aller beaucoup plus loin vers une union beaucoup plus large, ce que j'appelle l'union sacrée. Voilà, c'était pour compléter ce que vous disiez.
D'accord, mais en tout cas, je vous invite à lire cet article de ce garçon qui s'appelle David Guillaume, qui est un type absolument extraordinaire, vraiment que j'apprécie énormément. Quelles que soient ses idées, quel que soit ce qu'il défend, peu importe, le type qui a eu, pardon, les couilles d'aller sur les routes comme ça, parce qu'il considérait qu'Asselineau avait le droit de se présenter à l'élection présidentielle et qui est allé démarcher les mairies, je trouve ça tout simplement extraordinaire et je lui tire absolument mon chapeau. Alors ensuite. Vous attaquez à la Légion d'honneur, c'est pas bien ça. Vous attaquez à la Légion d'honneur. Alors, bon, cela dit, je ne peux pas trop vous en vouloir parce que moi je suis pour sa suppression. Donc, vous attaquez à la Légion d'honneur et vous expliquez que le commandement nominal de la Légion d'honneur serait confié au chancelier de l'institution afin de neutraliser les distributions complaisantes de cette médaille, comme si le chancelier de la Légion d'honneur était incorruptible. Alors, ce qui est très très intéressant, toutes les nominations antérieures seraient gelées depuis la présidence de Giscard d'Estaing, pourquoi pas depuis Pompidou,
Oui, depuis Pompidou, c'est oui.
Avec une commission nommée par l'Assemblée nationale pour valider ou invalider toutes les médailles et grades distribué depuis 1974. Alors pareil, moi je suis depuis 1969, pourquoi pas. Donc tous les titres des anciens présidents de la République obtenus par leur simple fonction seraient annulés dans l'instant, y compris à titre posthume. Alors à titre posthume, c'est pas très sympa parce qu'ils peuvent pas se défendre, mais il faut savoir que tout président de la République, si il n'est pas titulaire de la Légion d'honneur,
Le devient.
Le devient automatiquement au moment de son intronisation.
C'est absolument scandaleux pour moi.
Voilà. Et à propos, j'ai une question. Et pourquoi pas les premiers ministres? Puisqu'on sait que chaque premier ministre, au bout de 6 mois, reçoit automatiquement la Légion d'honneur.
Alors ça, je ne le savais pas, mais c'est un atelier, donc je ne vais pas en profondeur, et c'est justement pour déclencher la réflexion. On pourrait aller très loin, et quelque part, finalement, la supprimer totalement, ce serait certainement la meilleure idée. On réglerait d'un coup tout le problème.
Je suis assez d'accord avec vous. Ben, vous voyez, on arrive à être d'accord sur.
Parce qu'elle n'est plus, comme vous savez, c'est devenu quelque chose qui a été totalement dévoyé. Et ça devient un problème parce qu'on est vraiment sur. Je parle des mots de monarchie, d'oligarchie, etc. C'est très vrai. C'est un vrai problème. Voilà, il faut neutraliser ces choses-là qui sont très peu républicaines et qui, on le voit, sont souvent. Comment dire, on est sur un népotisme, sur une clientèle.
Oui, puis un système de cooptation
C'est ça.
tout à fait déplaisant, je suis absolument d'accord, et qui finalement ne sert pas à grand-chose. Enfin, je sais pas, bon, c'est pas beaucoup d'argent, la Légion d'honneur.
Il y a quand même l'école de Légion d'honneur qui est réservée donc à ceux et aux enfants, il me semble peut-être même petits-enfants de ceux qui ont la Légion. Donc il y a cette institution qui est quelque part un privilège qui n'a pas lieu d'être non plus dans la
Bon,
République.
rassurez-moi, vous l'avez pas.
Non.
Ah bon,
Et je la
d'accord.
refuserai par ailleurs.
Vous la refuserez?
Oui.
À ce propos, je signale quand même que la seule personnalité que je connais qui a refusé la Légion d'honneur, c'est Bernard Clavel, dont j'apprécie beaucoup.
Bernard
Tiens,
Clavel.
vous qui êtes historien, dont j'apprécie
Les
beaucoup
colonnes du ciel.
les livres. Alors, il y a Les Colonnes du ciel, il y a Table du roi, il y a.
Oui.
Voilà, je trouve que ce. Voilà, j'apprécie beaucoup.
Mais il y en a d'autres qui l'ont refusé.
Oui, bien sûr.
Bon, c'est quand même anecdotique. Mais ils ont eu raison parce qu'effectivement, je pense que des gens comme Coluche, etc., donc parlaient de hochet. Bon, on est vraiment sur un hochet de pouvoir, un levier de pouvoir et qui n'a pas grand-chose à voir avec la devise républicaine, hein, liberté, égalité, fraternité.
Oui, je suis moins attaché que vous à la République en réalité, hein, mais ça c'est encore un détail. Mais en tout cas, je conseille la chanson posthume de Brassens sur la Légion d'honneur qui s'appelle La Légion d'honneur, ça pardonne pas, qui est une chanson fantastique que je vous. Bon, moi je suis un très grand fan de Brassens et je vous invite évidemment à l'écouter si le cœur vous en dit.
Tous les Brummels, les dandys, les gandins, ils les considéraient avec dédain, faisant peu cas de l'élégance, ils s'habillaient toujours au décrochez-moi ça, au combat pour s'en servir de liquette, sous un déluge d'obus, de roquettes, il conquit un oriflamme teuton, cet acte lui valut le grand cordon. Mais il perdit le privilège de s'aller vêtir à la 6-4-2. Car ça la fout mal, ça perd l'hypopète d'avoir des faux plis, des trous assez bas, de mettre un ruban sur la salopette. La Légion d'honneur, ça pardonne pas. L'âme du bon feu maître Jean Cottard se réincarnait chez ce vieux fêtard. Tenter de l'empêcher de boire un pot, c'était ni plus ni moins risquer sa peau.
Alors, ensuite, vous vous attaquez au Parlement, au mandat parlementaire, qui interdirait le cumul d'autres mandats sans exception. Hein. Député-maire, c'est terminé. C'est pourtant utile, un député-maire, parce que ça permet à la fois de garder un contact privilégié avec une population.
Bon, en fait, l'idée que j'avais, c'était plutôt que justement, il ne puisse pas faire plus d'un mandat ou de deux, quels que soient d'ailleurs ses mandats. On voit que la politique professionnelle, alors peut-être, on me dira, mais ils ont acquis l'expérience, ceux qui feront qu'un mandat n'en auront pas. Je pense que cette politisation, cette professionnalisation de la politique est dangereuse et on le voit. Et c'est un problème qu'il faut régler. J'ai pas ici la solution. Mais il faut réfléchir à réduire, à mon avis, la voilure ici le plus qu'on pourra.
Vous avez parfaitement raison. Cela étant dit, moi, je pense que ce qui est important, ce n'est pas tellement la non-renouvelabilité, c'est surtout le fait que ce soit non-renouvelable consécutivement. Oui. Bah, ça me semble important, c'est-à-dire que, bon ben, t'as fait, en tout cas, alors pour le président de la République, c'est évident. Moi, je pense que le mandat à 7 ans, c'était une bonne durée.
Oui.
Mais il fallait que ce mandat fût non renouvelable, c'est-à-dire qu'une fois qu'un président de la République avait fait 7 ans, il s'en va. Ça nous aurait évité un François Mitterrand malade, ça nous aurait évité un Jacques Chirac malade, puisqu'on sait que les deux dernières années de son mandat, Jacques Chirac, à un moment, ne pouvait même plus prendre l'avion. Hein.
Et puis un deuxième mandat, même si on n'est plus au septennat, d'Emmanuel Macron aussi.
Et non, mais ça, même un premier mandat d'Emmanuel Macron, c'est catastrophique. Donc,
oui, non, mais d'accord.
Non, mais blague à part, c'est vrai que ce mandat... Et ensuite, le mandat non renouvelable, ça permet de...
Moi, si je peux me permettre, Jacques,
allez-y.
Je pense qu'on devrait en passer par une assemblée constituante. Je pense qu'on doit refaire cette constitution. Je pense que ça doit venir d'en bas, ça doit venir de gens qui seraient... Si vous vous souvenez, l'Assemblée constituante sont élus par les bailliages de toute la France et sont envoyés à Versailles pour faire cette constitution. Je pense que ça va devenir nécessaire. Hélas, on voit que tout part d'en haut et plus trop d'en bas. C'est un peu ça le problème.
Ouais, encore que je trouve que le bas est assez... Ouais, est-ce que... Moi, quand j'entends... Quand j'entends la rue me parler de la Russie et de l'Ukraine, quand je suis allé manger la veille de mon départ à Moscou définitif, puisque je suis venu m'installer ici pour travailler, quand je suis allé manger chez Madeleine, j'ai dit voilà, je m'en vais, je pars à Moscou. Elle m'a dit ah ouais, tu vas chez ce con de Poutine qui tue tout le monde. C'est moyen quand même. Ouais, le bas, moi, ouais, voilà. Mais pourquoi pas, ensuite. Peu importe. Alors vous parlez aussi des sénateurs, beaucoup, et vous faites notamment une proposition, donc déjà de l'annulation des grands électeurs, une proposition que le Sénat soit élu au suffrage universel. Alors ça se fait en Italie, avec un... Alors vous proposez donc l'élection du Sénat avec un... décalage de 3 ans par rapport à l'Assemblée nationale. Au fait, s'il n'y a plus de chef d'État, qui dissout l'Assemblée nationale?
En réalité, vous savez, le Sénat, je ne suis pas sûr qu'il soit très utile. Non plus.
Alors justement, j'allais y arriver, c'est précisément ça que je voulais vous dire. Ça sert à quoi, au fait, le Sénat?
À pas grand-chose.
Bon, ben, c'est embêtant parce que... Non, vous m'embêtez beaucoup parce que moi, vous me mettez des sénateurs dans les pattes. Donc moi, je lui dis, il va quand même un peu les défendre. Je vais quand même pouvoir un peu débattre avec lui. J'ai quand même un peu pouvoir me fâcher en lui disant, mais votre Sénat, il sert à rien. Non, expliquez-moi quel rôle il joue. Vous lui dites, il joue aucun rôle. Mm-hmm. Attendez, vu le prix que ça coûte, on fait combien d'hôpitaux avec ça?
À peu près 500 millions d'euros par an.
500 millions d'euros par an, mais on fait combien d'hôpitaux, combien de maternités, combien de services de cardiologie pour des gens qui doivent faire avec une crise cardiaque 60 km aujourd'hui?
Et je suis bien d'accord. Ouais. C'est, en fait, c'est une maison de retraite pour justement politiciens en fin de carrière. Et qui doré, hein. Bien sûr, il y a eu beaucoup de scandales. Vous vous souvenez, la cantine, entre guillemets, du Sénat, etc. C'est, oui. Je pense que justement, il faut tout chambouler en profondeur. Je sais, ça paraît presque la révolution, mais ça le serait. Mais je pense que ça va devenir nécessaire. Il y a une fatigue aussi des gens. Moi, je suis fatigué de ce système qui ne me convient pas. Et qui est... On m'a vendu quand j'étais enfant, et je pense que c'est aussi le cas pour vous, Jacques. C'est le pays des droits de l'homme, le pays des libertés, etc. Et finalement, le pays que je vois ressemble pas beaucoup à cette image qu'on m'a vendue.
Bah, de toute façon, moi, on me l'a vendu, mais j'ai pas acheté. Donc, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, comme vous, je suis en Russie. Donc, voilà. Mais effectivement, donc, alors, la France, pays des droits de l'homme. D'abord, moi, vous savez. Les droits de l'homme, ça reste quelque chose de théorique, d'une part, et puis d'autre part, et je crois que ça c'est très important, il faut arrêter de croire que on a le meilleur système social, on a la meilleure démocratie du monde, on n'est pas les meilleurs, on est un pays, un grand pays, un beau pays, avec une gastronomie absolument fantastique, si ça par contre c'est la meilleure. Encore que moi j'aime beaucoup la cuisine italienne, mais dans tous les cas, j'ai envie de dire qu'il faut arrêter une bonne fois de se croire les meilleurs, de croire qu'on a atteint le Graal sacré, qu'on a atteint le Nirvana. Non,
c'est justement ça le problème, c'est qu'on nous a vendu ce système, puis ensuite on nous a dit qu'on était arrivé au port. Et ça c'est vraiment, s'endormir sur ses lauriers, c'est pas très bon. Et on a besoin d'être en mouvement, on a besoin de cette dynamique qu'on a perdue dans ce pays-là. Et je suis bien d'accord avec vous. Je pense qu'il faut un rassemblement. Je ne prétends pas avoir les sciences infuses, mais je pense que c'est les citoyens regroupés, même si parfois on n'est pas d'accord avec eux, qui doivent décider de cet avenir-là. Et on voit très bien que ça ne fonctionne plus. En tout cas, et même je ne suis pas sûr que c'est fonctionné un jour, en fait.
Alors, vous vous attaquez aussi au Premier ministre, parce que après tout, tant qu'on est au volant de la pelleteuse, pourquoi se gêner ? Le mandat de Premier ministre et ceux des ministres ne pourraient également pas être cumulés et ils seraient non renouvelés à vie. Alors, on est Premier ministre combien de temps ? Et bon, d'abord, le Premier ministre, c'est pas un mandat, c'est une fonction. Et après tout, si c'est un bon Premier ministre, pourquoi il pourrait pas être renouvelé ?
Eh oui, mais la question, c'est le retour au système, un système monarchique. Hein. Bien sûr, on a eu des très bons rois.
Je suis content de vous l'entendre dire.
Mais c'est la réalité.
Oui, je le sais, c'est pour ça que je suis content de vous l'entendre dire.
Et hélas, certains sont extrêmement mauvais, mais c'était un peu comme ça, un peu la roulette russe, on va dire. Ici, il n'y a pas de formule magique, mais je pense quand même que restreindre... Moi, ce qui me choquait le plus, par exemple, mais je crois qu'on a des exemples tous, c'est ces ministres qui ont cumulé, et il y a des recordmen, je me souviens plus, je crois, Jack Lang doit être un d'entre eux, c'est de cumuler 5 ou 6 ministères différents, sans en avoir les compétences. Je veux bien, voilà, on sort, on a eu une carrière de médecin, etc. On est ministre de la Santé, c'est cohérent. Mais alors, Édith Cresson, par exemple, vous vous souvenez, ministre de l'Agriculture, c'était une pantalonnade. Enfin, voilà, des ministres qui...
Tout le monde se souvient d'Édith Cresson. Tout le monde. Édith Cresson, des Bataviens. Tout le monde s'en souvient.
Édith Cresson, pas de salade.
Voilà, c'est ça. Tout le monde s'en souvient, absolument. Je veux dire, on a vu comment elle a fini, lamentablement. Elle vit encore. Au moment où on enregistre, elle vit encore. Et je vous promets qu'elle profite encore.
Enfin, si vous voulez, c'est cette idée que on a des technocrates et on n'a plus justement des gens qui sont, à mon avis, cohérents, légitimes, pour occuper ces fonctions très importantes.
Alors, vous vous attaquez aussi aux indemnités parlementaires.
Ah oui.
Et ils mangent quoi, les députés, pendant 6 ans où ils occupent leur, ou 5 ans, pendant qu'ils occupent leur... leur mandat de député à plein et qui s'occupent de à la fois voter les lois et puis qui viennent dans leur circonscription s'occuper des gens, etc. Alors moi, ça va, parce que bon, je fais 100 kilos, mais je devrais tenir 5 ans. Mais d'une manière générale, comment ils font?
Vous savez, les salaires, j'ai décortiqué le Conseil constitutionnel il n'y a pas longtemps. Je fouille beaucoup les salaires. C'est assez incroyable quand même ce que ces gens nous coûtent. Hein. C'est quand même des sommes assez colossales. Et qui, de mon avis, sont pas justifiés, notamment dans un pays en crise. Et
non, mais entre pas justifiés et rien.
J'ai pas dit rien. Ça, je pense pas l'avoir écrit.
Je vais vous le retrouver, mais.
Ou alors c'est une erreur, mais j'ai jamais pensé que.
Ils ont simplement le droit à leur point de retraite, c'est tout.
Ah non, il y a une incompréhension.
Ah alors oui, alors on s'est mal compris.
Ce que je voulais dire, c'est que pendant un certain temps, notamment, c'est pas que les députés, mais les ministres et aussi surtout les présidents de la République avaient des privilèges à vie. Ce que je voulais dire par là.
Ah, alors ça, on est d'accord, mais ça, c'est autre chose.
Ce que je veux dire par là, c'est que tous ces privilèges seraient annulés et qu'en fait, finalement, pendant leur année ou les mois où ils sont dans ces fonctions, eh bien, ils ne cumulent que des points pour la retraite et c'est tout. Alors que certains d'entre eux, par exemple, c'est le cas de Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, c'est un truc, c'est incroyable. Pendant 40 ans, cet homme nous a coûté 2 500 000 euros par an. Voilà, après, du moment où il était élu président, parce qu'il avait ses privilèges. C'est absolument incroyable. Et il a cumulé ensuite, par exemple, il a été président du Conseil constitutionnel assez longtemps, et membre aussi, et puis député européen, et il a cumulé tous ses salaires. C'est absolument incroyable. Hein. Je veux dire, là, on parle en dizaines de milliers d'euros.
Oui, on est entièrement d'accord. Vous n'avez pas peur d'être accusé de populiste ou je ne sais pas quel...
Moi, je revendique mon aspect révolutionnaire. Populiste, je ne pense pas. Le populiste, c'est celui qui voudrait faire du prosélytisme. Et, moi, je suis un révolutionnaire depuis... Alors, vous disiez, Jacques, que la politique vous intéresse depuis l'âge de 7 ans. Moi, je pense que je suis révolutionnaire depuis que j'ai 13 ou 14 ans. Je pense qu'il faut absolument changer ce système. Ça n'a pas changé, c'est une constante chez moi. La révolution, à mon avis, est nécessaire. Et j'espère qu'elle pourrait se faire de manière, comment dire, douce. On connaît des exemples. Et là, j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas.
En tout cas, la révolution que le monde entier, soi-disant, nous envie, celle de 1789 et au-delà, puisque là aussi, hein, ça, c'est un peu comme l'histoire de l'Ukraine, ça a duré quand même un sacré bout de temps. La révolution a quand même connu de très 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 sérieux dérapages.
Donc plus que sérieux, au point que je me souviens. Quand les gens me demandent par exemple, mais Laurent, qu'est-ce que tu veux à la fin? Je leur dis, mais
ah oui, au fait, Laurent, qu'est-ce que vous voulez à la fin?
Mais fondons la République. Et là, le bug complet chez les gens, parce qu'ils ont l'impression qu'on a fondé cette République. Non, nous n'avons pas fondé la République. C'est pas vrai. Cette révolution de 89 nous a apporté évidemment pas mal de choses qu'on peut définir comme bonnes et aussi beaucoup de mauvaises. Ça s'est fait dans la douleur, dans le sang, dans la guillotine, le génocide vendéen, etc. Puis ensuite les campagnes révolutionnaires, la guerre, etc. C'est connu. Mais bon, voilà, il faut avancer et je pense qu'on est, comment dire, comme attaché, enchaîné à cette révolution. Et hélas, ça fait 250 ans, il faut la lâcher. C'est dans le passé, c'est bien de l'enseigner, c'est bien de la connaître, mais voilà, maintenant il faut avancer, il faut en terminer justement avec ce mythe.
D'accord, écoutez, c'était très intéressant. Oui, le point pour les retraites était donc au point 9. Hein. Tous les privilèges des différents mandats seraient abolis, les mandataires ne cumulant que des points pour leur retraite, hein, dans cette optique.
Oui, plus leur salaire. Après, les salaires, bien sûr, on pourrait trancher dedans. Hein. Vous savez, ma maman, qui était conseillère municipale, puis adjointe au maire, la première décision qu'ils avaient prise dans leur petit village, dans l'Ain, c'était de diviser tout leur salaire par deux.
D'accord. C'est...
C'est courageux.
Oui, il y a Thomas Sankara qui avait fait ça en Haute-Volta devenu Burkina Faso, il avait décidé que les ministres et autres privilégiés allaient rouler, au lieu de rouler en Mercedes, ils allaient rouler en R5.
Non, il faut peut-être pas être jusque-là, mais disons que trancher...
Oui, surtout que ça lui a coûté cher.
Je sais pas, je connais pas sa destinée. D'ailleurs, l'homme, je le connais pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument devenir raisonnable. Et surtout dans un pays qui est en crise. Il faut arrêter, justement. Ça fait partie de ce népotisme, de cette oligarchie, de ces abus, de cette corruption endémique. Parce que nous, on a une corruption. On parle souvent de l'Ukraine, de la Russie comme des pays corrompus. Je pense qu'on a une corruption, nous, en France, qui se fait justement dans ces milieux endogames, technocrates, etc. Plus l'Union européenne, on rajoute des couches supranationales. Il y a une situation qui est vraiment catastrophique, inquiétante même, je dirais.
Les conseils régionaux, on supprime.
En tout cas, il y aurait beaucoup à faire ici. Parce que comme vous savez, on a regroupé les communes. Les communes, il y en a qui sont minuscules. Je me souviens avoir affiché des affiches pour François Asselineau dans une commune qui fait 37 habitants. Est-ce que ça vaut le coup de la maintenir? Enfin, après, il y a beaucoup de questions ici qui se posent et je pense que là, il faudra une grande assemblée nationale. D'ailleurs, les départements, comme vous savez, ont été fondés en 1790 sous la Révolution. C'était déjà une grande avancée. Il y avait des districts, je ne sais pas si vous savez ça. Il y avait le département, le district, le canton, les communes, maintenant les communautés de communes, mais ensuite les régions. Je pense qu'on pourrait simplifier tout ça et rendre tout ça beaucoup plus efficace. On a une bureaucratie qui devient quand même pesante, coûteuse et, comment dire, impotente. Je crois que c'est le mot.
Oui, enfin moi j'irais dire jusqu'à obèse, hein, de toute façon, voilà, donc c'est quand même un sacré problème. La démocratie directe, ça vous parle?
Oui, bien sûr.
Alors là, pour le coup, on va parler de la Suisse.
Et ça serait nécessaire, là par exemple, quand on. Choir, on a beaucoup parlé de cette démocratie directe. Par exemple, on n'a plus eu en France de référendum depuis celui de 2005, alors que les présidents précédents, on avait fait deux ou trois par mandat. Là, on n'aura plus jamais de référendum, j'en suis persuadé. Et c'est une façon justement de faire remonter vers le haut de la base dont on parlait tout à l'heure. C'est à mon avis une très bonne idée.
Ça sert à quoi le référendum si on ne respecte pas le résultat?
Ah bien sûr, c'est le gros problème de la France puisque...
Et aussi parfois le problème de la Suisse d'ailleurs.
Ah ça je sais pas, je connais moins le sujet. Mais en tout cas, disons que c'est déjà une évolution, bien sûr après, qu'il soit respecté, ça c'est autre chose. Mais il faudrait, enfin je pense que c'est nécessaire. Je me souviens d'une parole, bien sûr c'est un peu choquant. En France, vous vous souvenez, je ne sais plus qui dit ça, mais cet homme disait, si aujourd'hui on faisait un référendum sur la peine de mort, elle serait rétablie. Or, c'est inadmissible. Donc il y a un côté où je comprends, je ne suis pas pour la peine de mort, mais je comprends, comment dire, que des élites finalement se disent, bon, on va décider à la place, comment dire, des gueux. Comment dire, des descendants, je ne sais pas si vraiment François Hollande l'a dit.
Non, il l'a dit, il l'a dit, il l'a reconnu, il a reconnu l'avoir dit aussi, si, il l'a dit.
D'accord.
Mais écoutez, c'est très bien qu'on parle de la peine de mort puisque on l'aborde dans ce blog. On a même fait un podcast à ce sujet, si vous voulez tout savoir. Et moi, je suis partisan de la peine de mort. Et par conséquent, je serai. Mais en tout cas, si c'est la volonté vox populi vox Dei, et si c'est la volonté de la population, c'est quand même la moindre. C'est quand même la moindre des choses. C'est quand même la moindre des
C'est ce que je
choses.
voulais dire. Si c'est la volonté populaire et dans une démocratie, une vraie république, on ne devrait pas leur barrer le passage et décider à leur place quand on est la minorité.
Oui, puis exactement. Puis qui sont ces gens qui se permettent de décider là-dessus? Là-dessus, nous sommes d'accord. Alors, on y arrive comment à tout ça? Parce que vous me proposez une assemblée constituante. Mélenchon aussi propose ça, hein, une assemblée constituante.
Oui, mais Mélenchon, c'est un apparatchik du système. Donc lui, il fait des propositions parce que c'est son rôle d'en faire. Mais il n'y aura jamais rien de contraire. Moi, je suis. Vous savez, je suis historien. Je sais que, comment dire, le système ne va pas perdurer 1000 ans. Le quatrième Reich européen de 1000 ans, ça n'existe pas.
Il faut que tout change pour que rien ne change, c'est bien connu.
Ça va s'effondrer. Hélas, je ne sais pas comment. Je sais qu'il sait aussi, et ça c'est très important de le savoir, et c'est toutes les révolutions qui fonctionnent de la même façon, c'est une conjonction de, comment dire, de faits différents. Par exemple, si on prend l'exemple de 89, il y a ce volcan islandais qui provoque une disette, et ensuite la guerre étrangère, ça peut être aussi comment dire, une idéologie qui se répand, donc là pour le coup c'était donc la République, etc., ou une fermentation, comment dire, d'idées, il peut y avoir beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais je sais, en tant qu'historien, que l'Union européenne s'écroulera dans la liesse populaire, que s'éveillera. On n'a connu aucun empire. L'URSS est tombé, l'Empire napoléonien est tombé, l'Empire romain est tombé. Tout ça arrivera un jour. Quand, comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que je le verrai de mon vivant. Si je ne le vois pas, bon, voilà, c'est comme ça. Dieu en aura décidé ainsi.
Vous croyez en Dieu?
Oui.
Vous pratiquez une religion?
Oui, bien sûr, mais assez, comment dire, je pense que c'est quelque chose de très personnel. On est face à Dieu et j'aime pas beaucoup finalement, comment dire, j'aime beaucoup discuter avec des gens d'autres religions. J'ai beaucoup d'amis musulmans, par exemple. C'est très personnel, ça. Je pense que ça doit rester, comment dire, dans le cercle privé.
Alors, bien sûr, c'est votre choix. Hein. Il n'y a pas de... Là-dessus, on est... je veux dire, moi, je ne vais pas vous...
Je veux dire que je suis chrétien. J'aime pas la pyramide papale. J'ai été élevé dans la religion catholique, mais je n'aime pas la pyramide papale qui me dérange beaucoup. On va dire ça comme ça. Je préfère être chrétien et j'aime beaucoup le rite orthodoxe. Nos frères russes, et ça m'est arrivé assez souvent d'aller dans des, comment dire, des messes, dans des églises, dans des cathédrales donc russes. J'aime beaucoup leur rituel et je voudrais là aussi qu'on revienne à l'essentiel. Finalement, l'essentiel, c'est nous-mêmes face à Dieu, c'est la foi. La religion, ça, en fait, c'est une mauvaise chose. Comment dire, c'est lieu de pouvoir, de corruption, encore une fois, de bureaucratie, de technocratie. Ouais, voilà un peu ce que je pense.
Ouais, enfin bon, je crois que dans l'Église orthodoxe, il y a pas mal aussi de bureaucratie et de...
On est d'accord.
Mais bon, de toute façon, c'est pas le sujet. C'était simplement destiné à permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître, parce que c'est une question que je pose souvent. Je l'avais posée aussi quand Christelle est venue à ce même micro. Même si elle est venue par les ondes, parce qu'elle est dans le Donbass, mais je lui avais posé la même question. On avait eu là-dessus une discussion assez intéressante. Vous imaginez le reste de votre vie en Russie?
Autrefois non, jusqu'à l'opération spéciale, et ensuite j'ai compris que oui, ça serait la Russie. Qui certainement, comment dire, m'accueillerait en terre. On va dire ça comme ça.
Est-ce que les évolutions actuelles, bon, j'ai beaucoup écrit ici sur, quand je dis ici, c'est sur le blog, sur justement ces questions où la Russie aujourd'hui est en train de fermer des canaux d'information, là, la Douma est en train de voter 60 nouvelles raisons d'expulsion des étrangers, etc. Il y a quand même un certain nombre de tensions, y compris de tensions internes en Russie aujourd'hui. Comment vous voyez-vous ces choses?
Alors moi, j'ai fait 2 ans de front. Je me suis engagé dans cette guerre parce qu'il s'agit bien d'une guerre il y a bien longtemps.
En tant que journaliste?
Oui, bien sûr. Ouais. Mais même en tant que personne, en tant que père, en tant que chrétien, en tant de ce que vous voulez. Moi, je suis persuadé qu'on oublie beaucoup que cette Russie est en guerre. C'est une guerre féroce à mort. Une guerre au couteau, comme les Espagnols ont mené contre les soldats napoléoniens. C'est une guerre réellement à mort. Et elle se fait sur tous les points. Et hélas, maintenant, la guerre informationnelle, la guerre cognitive, la guerre psychologique en fait partie. Et on assiste à, comment dire, bon, il y a le monde multipolaire et l'Occident global. Tout ce, comment dire, il y a une sorte de, comment dire, comme autrefois pendant la guerre froide, les deux blocs qui se font face et qui se durcissent, qui construisent des murs et qui deviennent aussi virtuels, et ça en fait partie. Hélas, tout ça ne pourra cesser que quand justement ce conflit, quand la, comment dire, la querelle sera vidée.
Alors la querelle sera vidée d'ici, même s'il y avait un... Bon, est-ce qu'il peut y avoir un vainqueur à cette guerre?
Laquelle? Le conflit russo-ukrainien, oui. Ou celle qui est au-dessus?
Ben, je ne sais pas, elles se confondent. Donc, c'est très difficile, puisque bon, le conflit, en réalité, il n'est pas russo-ukrainien. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus?
Bien sûr.
Donc,
Pour ce qui est du conflit russo-ukrainien, l'Occident a perdu cette guerre quand le Maïdan a commencé. Mais la grande difficulté pour la Russie, ça sera de gagner la paix. Ça, c'est autre chose. Et ça sera très compliqué, ça. Et ensuite, cette guerre, les objectifs qu'aurait voulu atteindre la Russie ne seront probablement jamais atteints. Hélas, c'est ainsi. Par rapport à l'autre guerre, celle plus globale qui donc voilà, met face à face les deux systèmes, ça sera long. C'est une histoire qui va durer pendant assez longtemps. Vous vous souvenez de la première guerre froide? Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'elle avait jamais cessé, cette guerre froide. Finalement, nous sommes dans une deuxième étape, plus violente. Je ne sais pas comment elle sera vidée, je ne sais pas où ça sera.
Enfin, pardon, le mur de Berlin, c'était quand même violent, hein.
J'ai pas compris la question.
Je dis le mur, non, c'est pas une question, c'est juste le mur de Berlin, c'était quand même quelque chose de très violent. Hein. Vous dites qu'elle sera, elle sera plus violente, celle qui vient sera plus violente.
Oui,
mais déjà celle qui a été, elle était déjà extrêmement violente. C'est ça que je veux dire.
Ah oui, bien sûr. Oui, mais là, comment dire, la capacité, comment dire, de nuire de l'humanité est montée encore d'un cran. Avec cette guerre des robots qui va venir, celle des drones, etc., celle du cosmos, etc. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Celle du virtuel. On a passé un cap, mais vous avez raison. Elle a été extrêmement violente, meurtrière. On se souvient de toutes ces guerres hybrides déjà, Vietnam, etc. Et Afghanistan et bien d'autres encore. Bon, voilà, je suis d'accord avec vous, évidemment.
Est-ce que la Russie a des ennemis intérieurs?
Oui, nombreux. Et de tout temps, et c'est normal. Je veux dire, on ne connaît pas un seul pays dans le monde où tout le monde serait aligné en rond d'oignon derrière le chef et tout le monde au chef.
87% des électeurs pour Vladimir Poutine aux dernières élections, c'est quand même une belle unanimité, il me semble.
Oui, mais il y a quand même des ennemis internes, c'est normal. Enfin, je veux dire, ces ennemis existent. Ils sont de différentes obédiences, on va dire.
Laurent Braillard, j'arrive à la question que je pose presque à tous les invités que j'ai appréciés. Est-ce que vous reviendrez?
Bien sûr, je reviendrai.
Bon.
Ce sera avec plaisir.
Vous reviendrez, ce sera avec plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je reprendrai contact parce qu'on a des choses certainement à échanger. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. Je rappelle, le titre de votre livre, c'est « Comprendre le conflit russo-ukrainien » et pas « Comprendre le conflit ukrainien », comme je l'ai dit bêtement au début. Je m'en excuse. C'est publié aux élections Contre-Culture. Et eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie encore une fois d'être venu et de nous avoir accordé ce temps. Merci beaucoup, Laurent Braillard.
Merci beaucoup.
Thank you.